France Inter.
Bonjour à tous, les écrans sont-ils nocifs pour les plus jeunes? Pour une grande partie des spécialistes du sujet, la réponse est oui, mais certains chercheurs relativisent leur impact sur la santé. Bonjour Marie Dupin.
Bonjour.
De la cellule investigation de Radio France, pour Secret d'Info, vous avez enquêté sur les méthodes de l'industrie du numérique pour capter l'argent public et mettre un pied dans les laboratoires de recherche et dans les écoles françaises.
Secret d'Info. Benoît Colombat sur France Inter.
Je pense que quand on a des jeunes qui passent 5 heures par jour sur les écrans, qui consultent des sites, des séries, des jeux vidéo dont on n'a pas idée, et qui ensuite ont une forme de perte de repère entre le réel et le virtuel, avec une banalisation de la violence sur les réseaux sociaux, oui, je pense qu'il faut protéger nos jeunes de la surexposition aux écrans, de la banalisation de la violence.
Voilà, c'était il y a 3 jours sur France Inter, au micro de Sonia De Villers, la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, réagit après la mort d'une assistante d'éducation poignardée par un élève de 14 ans devant le collège Françoise Dolto à Nogent, en Haute-Marne. Et la ministre pointe notamment du doigt l'impact des écrans sur la santé mentale des plus jeunes. Dans le même temps, le chef de l'État, Emmanuel Macron, prône lui l'interdiction des réseaux sociaux avant l'âge de 15 ans. Et c'est l'occasion de rappeler, Marie Dupin, qu'il y a un peu plus d'un an, le président de la République annonçait justement la création d'une commission d'experts sur le danger des écrans.
Oui, une commission co-présidée par la neurologue Servane Mouton.
Ce qui nous a été expliqué, c'est que la genèse de cette demande, en tout cas, était la peur qui avait été suscitée par les émeutes urbaines quelques mois auparavant, avec le rôle potentiel des réseaux sociaux comme alimentant les violences et les destructions qu'il y avait pu y avoir. Donc le président de la République avait souhaité s'intéresser au sujet et rapidement, ne pas en fait rester sur cette question des réseaux sociaux et éventuellement des liens avec la violence, mais de poser plus largement la question des impacts de l'usage des écrans sur les plus jeunes, enfants et adolescents.
Et en avril 2024, les membres de ce groupe d'experts, composés de médecins, de chercheurs et de représentants d'associations, ces spécialistes rendent leurs conclusions. 140 pages et 29 recommandations fortes. Pas d'écran avant 3 ans, pas d'écran dans les crèches et les maternelles, ni de smartphone avant 11 ans.
Et qu'est-ce qui se passe ensuite?
Eh bien, 2 mois plus tard, durant la campagne des législatives, le président de la République, qui avait commandé ce rapport, prend un engagement sur le sujet.
Tous les experts le disent, l'addiction aux écrans est le terreau de toutes les difficultés. Et pour y faire face, fort du travail qui a été fait ces derniers mois, le gouvernement aura à prendre des décisions claires pour protéger nos enfants. D'abord, en ne permettant pas l'usage des téléphones avant 11 ans et surtout l'accès aux réseaux sociaux et à leur usage avant l'âge de 15 ans.
Bon, et les préconisations de ce groupe d'experts, finalement, qu'est-ce qu'elles sont devenues?
Eh bien, aujourd'hui, seules 2 mesures ont été annoncées. La généralisation de l'expérimentation portable en pause au collège, ainsi qu'un droit à la déconnexion entre 20h et 7h du matin des outils numériques scolaires, comme Pronotes, à partir de la rentrée.
Donc, des mesures d'interdiction qui se font toujours attendre. Et le 11 février dernier, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, s'est exprimée sur la question.
Oui, un déplacement à l'hôpital Robert Debré à Paris pour rencontrer justement des experts sur le sujet. Écoutez sa réponse à une question posée par un journaliste de l'AFP à la sortie de la réunion.
Le ton des interventions des professionnels autour de la table semblait assez sceptique sur les mesures d'interdiction à proprement parler. Est-ce que du coup on irait plus vers de la prévention que de l'interdiction?
Vous savez, moi j'écoute beaucoup et l'interdiction complète est toujours très difficile. Vous n'êtes pas dans la vie des familles tous les jours. Alors que vous disiez on ne met pas d'écran, dans une crèche, pourquoi pas? Mais vous ne réglez pas le problème parce que l'enfant, le reste du temps, il est avec ses parents. Et je pense que toute la question, c'est là comme ailleurs une discussion à avoir pour échanger avec les parents et expliquer le pourquoi du comment.
Oui, donc on l'entend, une ministre de la Santé très prudente sur le sujet et qui renvoie la responsabilité aux parents. Mais justement, Marie, il y a de plus en plus de parents qui s'inquiètent de l'impact de ces écrans sur leurs enfants.
Oui, comme le père d'un adolescent qui n'arrive plus à se passer de son téléphone avec ses amis, au point qu'il consulte aujourd'hui un psychologue pour ça.
Ils jouent en ligne, voilà, c'est tout ce qu'ils font. Ils jouent en réseau. C'est ça leur moyen de communication, voir leurs amis, c'est d'être en réseau. Bon, on se rend compte vraiment que le mal que ça peut faire d'avoir un téléphone sur soi, en permanence. La première source de conflit avec les enfants, c'est les écrans. Jusqu'à pleurer, parce qu'on a enlevé l'écran. Il n'y a peut-être pas suffisamment de messages clairs pour dire que bah, les téléphones, c'est dangereux, ça rend addict. Et effectivement, pour une classe d'âge, ça peut être compliqué pour leur évolution.
Et Axel vit une situation similaire avec sa fille de 16 ans.
Elle est tout le temps dessus, elle est consciente qu'elle a des problèmes de mémorisation. Et en troisième, les notes ont commencé à baisser. Quand on a mis un gros contrôle parental, elle a arrêté quasiment à 100% de travailler. Mais pendant 3 mois, je l'ai vue couler, ma fille, en fait. Elle coulait, je la voyais, elle était sur son lit, prostrée.
Et c'est pour tous ces parents que des consultations spécialisées voient désormais le jour.
Oui, comme à Fleury-les-Aubrais, près d'Orléans, au sein d'un établissement public de santé mentale, où travaille Stéphanie Dupuche, chef du pôle pédopsychiatrie.
On voit bien dans notre consultation que les jeux chez les garçons, c'est compliqué parce que c'est très addictif et que ça va engendrer du coup des troubles du comportement, des troubles relationnels importants. Et puis on voit bien chez les jeunes filles que les réseaux sociaux modifient leur perception qu'elles ont d'elles-mêmes. Et ça, ça a des conséquences très importantes dans leur développement émotionnel et affectif.
Et ces troubles liés aux écrans, scientifiquement, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Eh bien, selon les experts de la commission réunie par l'Élysée, il existe un consensus scientifique net sur de nombreux risques liés aux écrans. Manque de sommeil, sédentarité, obésité, problèmes de vue, avec aussi des liens entre les problèmes de sommeil et la santé mentale, les capacités d'attention et de mémorisation.
Mais est-ce que ça crée vraiment une dépendance ?
Alors aujourd'hui, l'addiction aux jeux vidéo est reconnue officiellement, ce qui n'est pas le cas pour l'instant de l'addiction aux réseaux sociaux. Lédia Lazry est coordinatrice du programme sur la santé mentale au sein de l'Organisation mondiale de la santé, qui a mené une vaste étude sur ce sujet. Résultat, plus d'un adolescent sur 10 présente des comportements problématiques.
11% de ces adolescents expliquent qu'ils luttent pour contrôler leurs usages des écrans et que cet usage a des conséquences négatives sur leur vie. Le problème principal, c'est qu'ils disent avoir le sentiment de ne pas réussir à déconnecter. C'est évidemment un signe d'addiction. Et ce qui est très important, c'est la vitesse à laquelle ça évolue. Notre étude a été menée en 2021 et 2022. Lors de notre étude précédente, 4 ans plus tôt, on était à 7% de comportements addictifs. On est passé à 11%. C'est une augmentation évidente et très rapide et très importante. C'est inquiétant.
Et face à cette situation, l'OMS préconise des mesures immédiates et soutenues de la part des pouvoirs publics pour protéger les jeunes des réseaux sociaux.
France Inter, Secret d'info, Benoît Colomba.
Et je voudrais maintenant, Marie Dupin, qu'on revienne sur cette déclaration de la ministre de la Santé. C'était en février dernier à l'hôpital Robert-Debré. La ministre explique qu'il est difficile pour l'instant de prendre des mesures d'interdiction sur les écrans. Déclaration faite après avoir échangé avec un certain nombre d'experts. Et vous vous êtes intéressé à l'un d'entre eux.
Oui, il s'appelle Grégoire Borst et il dirige un laboratoire public de psychologie du développement de l'enfant. Il faisait partie du groupe d'experts consultés par l'Élysée. Si lui-même n'a jamais publié d'article scientifique sur les conséquences sanitaires des écrans, il s'exprime très régulièrement sur ce sujet. Écoutez-le par exemple le 23 juin 2020 sur le plateau de l'émission Enquête de santé sur France 5. Il est question de l'impact des écrans sur le sommeil.
Effectivement, il y a une différence entre ceux qui passent plus de temps sur les écrans par rapport à ceux qui en passent moins. La différence absolue en temps de sommeil chez un adolescent, c'est 8 minutes pour 8h30 de moyenne. Donc, oui, ça a un effet. Est-ce que vous avez besoin d'une politique de santé publique sur cette question-là? La priorité, c'est de faire commencer l'école plus tard pour les adolescents.
Oui, donc lui considère qu'il faut se concentrer sur les rythmes scolaires plutôt que sur les écrans.
Oui, même si aujourd'hui, ce même chercheur a finalement co-signé le rapport du groupe d'experts qui reconnaît l'existence d'un consensus scientifique sur les effets néfastes des écrans sur le sommeil. Et dans la même émission sur France 5, il explique par exemple que les jeux vidéo d'action peuvent aider les enfants à apprendre à lire.
Contrairement à ce qu'on peut penser, jouer à des jeux vidéo d'action, ça joue sur le système attentionnel qui est impliqué dans les apprentissages scolaires fondamentaux comme la lecture. Donc on a montré par exemple au laboratoire, quand on fait un essai contrôlé aléatoire, on a deux groupes d'enfants, un groupe d'enfants qui jouent à des jeux vidéo d'action, un groupe d'enfants qui jouent à des jeux de programmation. Ceux qui jouent à des jeux vidéo d'action, ils augmentent leur capacité attentionnelle, mais ils augmentent aussi la qualité de leur lecture et ça se maintient 6 mois après.
Mais est-ce que le laboratoire de ce chercheur a vraiment démontré que les jeux d'action améliorent la lecture ?
Alors non. J'ai demandé à Grégoire Borst à quelle étude il faisait référence et il m'a cité une recherche menée en Italie, validée et publiée 2 ans après l'émission. Cette étude montre qu'un jeu vidéo développé spécialement pour cette recherche aurait un impact positif sur la lecture des enfants italiens. Mais quand Grégoire Borst a lui-même testé ce jeu vidéo dans son laboratoire, ça n'a montré aucun effet positif. Et j'ajoute que celle qui a mené le projet au sein du laboratoire de Grégoire Borst est aujourd'hui salariée d'une start-up qui développe des outils d'intelligence artificielle, notamment avec ce laboratoire.
Ce qui pose la question de la proximité entre des entreprises privées de la tech et des laboratoires comme celui de ce chercheur.
Oui, un laboratoire public qui dépend de la Sorbonne et du CNRS, le LabCD. Ce laboratoire reçoit par exemple des financements ou des dons du groupe Nathan qui commercialise des manuels scolaires papier mais aussi numériques. Grégoire Borst mène également un projet de recherche financé par un fonds d'investissement Infravia qui investit notamment dans les data centers. Écoutez le patron de ce fonds d'investissement, Vincent Levita. C'était le 9 octobre 2023 lors d'un salon à Paris.
Depuis quelques années, nous avons diversifié Infravia en dehors de l'infrastructure, en investissant dans la tech. Bien sûr, la santé et l'éducation sont également des secteurs où le territoire attend d'être renforcé.
Et dans une vidéo promotionnelle de ce même fonds d'investissement, tournée lors d'un événement le 8 octobre dernier consacré à l'innovation dans l'éducation, on retrouve le patron d'Infravia, mais aussi le chercheur Grégoire Borst.
L'éducation pour nous, c'est le thème essentiel. Derrière l'éducation, il y a aussi les sciences qui permettent de soutenir cette dynamique de progrès.
Donc les 3 grands champs de compétences qu'il faut réussir à développer aujourd'hui chez les élèves, dès la petite section de maternelle, c'est apprendre à apprendre. La deuxième chose, c'est apprendre à penser, c'est-à-dire penser par soi-même et souvent contre soi-même. Et la dernière chose, c'est apprendre à être, c'est-à-dire toutes les compétences qui font de nous des humains, qui sommes capables d'interagir avec d'autres humains.
Bon, cela dit Marie, des collaborations entre des laboratoires de recherche publics et des entreprises privées, c'est pas interdit.
Encore faut-il que tout soit transparent et déclaré. D'ailleurs, lors de leur participation au groupe d'experts de l'Élysée, les spécialistes comme Grégoire Borst ont dû remplir ce qu'on appelle une déclaration publique d'intérêt, un document qui doit normalement être publié sur un site officiel.
Et dans le cas de ce chercheur qu'on évoquait à l'instant, dont l'un des programmes est donc financé par un fonds d'investissement lié au secteur de la tech, est-ce qu'il l'a déclaré lorsqu'il a participé à la commission sur les écrans ?
Eh bien, je suis allée lui poser la question dans son laboratoire à la Sorbonne.
Ce projet qui est financé par Infravia, il est financé sur une démarche de mécénat, donc il n'y a pas d'attente en particulier d'Infravia par rapport à ça, et il vise à former des enseignants sans le numérique. Quand je travaille avec une industrie qui travaille dans le domaine du numérique, je déclare ce que je fais de ce point de vue-là.
Déclarez où ?
Je le déclare notamment dans la commission écran ou autre.
Et vous avez parlé d'Infravia dedans ?
Je ne suis pas sûr. Il aurait fallu le faire. Je ne vois pas en quoi là était un conflit d'intérêts potentiel. Maintenant, si vous me dites « vous devriez faire plus attention à ça », vous avez sans doute raison et c'est peut-être des choses sur lesquelles il faut qu'on soit plus sensibilisé en tant que chercheur.
Et je précise que les déclarations publiques d'intérêt du groupe d'experts de la commission écran n'ont jamais été rendues publiques, ce qui est contraire à la réglementation. Nous les avons demandées, mais selon l'Élysée, ces documents n'ont pas été conservés.
Et ce chercheur qu'on vient d'entendre, il est également sollicité par l'Éducation nationale.
Oui, pour former chaque année plus de 5000 enseignants dans le cadre de leur formation continue. Mélanie est professeure des écoles. Elle a été marquée par l'intervention de Grégoire Borst.
Toute sa démonstration, c'était pour aboutir au fait que finalement, le temps d'exposition aux écrans, ça jouait pour une part très minime, vraiment à la marge, sur les problèmes d'attention des enfants et la réussite scolaire, etc. Qu'il a dit en gros que ce qui était important, c'était le contenu et que à partir du moment où le contenu était de qualité, il n'y avait aucun problème pour utiliser les tablettes, qu'il fallait surtout pas supprimer les supports numériques en classe.
De son côté, Grégoire Borst répond, je cite, qu'il se garde bien de donner son opinion lors de ses formations et qu'il se contente de présenter l'état de la recherche sur ces questions pour aider les enseignants à se faire leur propre avis.
Maintenant, au-delà du cas de ce chercheur, ce que vous avez découvert, Marie Dupin, c'est qu'il existe de nombreuses passerelles entre certains laboratoires publics, les entreprises de la tech et l'Éducation nationale.
Oui, plus précisément, certains laboratoires de sciences cognitives, c'est-à-dire des chercheurs qui étudient la psychologie humaine, la mémoire, l'attention, l'apprentissage, mais aussi l'intelligence artificielle. Et tout ça intéresse évidemment de près les entreprises de la technologie, comme l'explique Emmanuel Gavard, journaliste à Stratégie.
Le but, c'est que vous soyez happé par la plateforme, que vous y consacriez toute votre attention. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. C'est pour ça qu'elles ont énormément besoin de faire des études sur le comportement, comment vous interagissez à chaque fois, de comprendre le fonctionnement du cerveau. Tout ce qu'elles peuvent retirer comme connaissance du fonctionnement du cerveau va les aider à améliorer leurs produits pour répondre à ce modèle économique du temps passé et de l'attention.
Et derrière cette bataille industrielle et commerciale, il y a aussi un enjeu médiatique.
Et oui, parce que d'un côté, ces industriels de la technologie financent des laboratoires dont les chercheurs sont médiatisés ou qui interviennent dans des instances officielles comme le groupe d'experts de l'Élysée. Et dans le même temps, ils accèdent, ces industriels, à des financements de l'État pour développer leurs outils numériques, notamment à travers les technologies de l'éducation. Et ça ne date pas d'hier, comme l'explique Christophe Caillot, membre du SNES-FSU, le premier syndicat de l'enseignement secondaire.
Il y a au moins une date qui est importante, c'est la date de 1985 avec Laurent Fabius, qui est alors Premier ministre, qui lance un plan informatique pour tous. Et dès cette époque, en fait, on se rend compte qu'il tente d'articuler un discours à la fois sur l'école de demain sera informatique et en même temps défense d'intérêts industriels, puisque en fait, ce qui est distribué dans les écoles, c'est des ordinateurs Thomson. À une époque où deux entreprises de l'informatique française sont en difficulté, Thomson et Bull, pour des logiciels. Et l'idée, c'est de participer à cet effort industriel. C'est quelque chose qu'on retrouve ensuite dans tous les ministères depuis, en s'accélérant de plus en plus. Les ministres eux-mêmes se présentent comme des portes d'entrée de ce qu'ils appellent la EdTech, donc les industriels du numérique éducatif, au cœur de l'éducation nationale.
Et quand on parle de EdTech, de technologie éducative, on pense par exemple aux tablettes numériques et tout ça, bien sûr, ça coûte de l'argent.
Oui, mais pas seulement pour acheter du matériel. En 2016, par exemple, l'État lance un appel à projets pour développer le numérique à l'école en lien avec des start-up et des laboratoires publics de recherche. Parmi les laboratoires retenus, il y a celui de Franck Ramu, chercheur en psychologie cognitive. Écoutez-le en octobre 2021 lors de la fête de la science à l'École normale supérieure à propos d'une étude sur les écrans.
Pour un psychologue, effectivement, le smartphone, c'est peut-être perçu comme quelque chose d'un peu dangereux. En tout cas, si on en croit ce que racontent les médias là-dessus. Alors bien sûr, il ne faut pas forcément croire tout ce que vous racontent les médias. Ils ne sont pas toujours très bien renseignés, ils sont parfois manipulés. Effectivement, l'usage du numérique a un petit lien vers la santé mentale des adolescents, par exemple, et que ce lien est négatif. Alors là, je vous donne la taille de l'effet, c'est moins 0,05 écart type, ce qui ne vous dit rien en soi, et je ne vais pas vous expliquer l'échelle, mais c'est intéressant de la comparer avec des effets d'autres facteurs. Le fait de porter des lunettes, évidemment, ça affecte un petit peu négativement la qualité de vie. Et vous voyez que c'est à peu près le même ordre de grandeur que l'usage moyen du numérique. Il y a aussi le fait de manger des pommes de terre, ça a aussi un petit effet sur la qualité de vie. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien, ça sort de ces études statistiques, mais c'est aussi à peu près le même ordre de grandeur que l'usage du smartphone.
Et sur son blog, ce chercheur explique que l'effet des écrans est trop faible pour, je cite, « justifier des recommandations alarmantes de santé publique ».
Et ce chercheur, il est également membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale.
Oui, c'est un organisme qui donne son avis sur les politiques de l'éducation nationale. Et parallèlement, Franck Ramu a aussi donc mené des travaux de recherche en partenariat avec une entreprise de la tech afin de développer des outils pour l'éducation nationale.
C'est-à-dire ?
Une plateforme de formation pour les enseignants pour laquelle l'État a déboursé près d'1 million d'euros de subventions publiques.
Et finalement, pour quel résultat ?
Eh bien, j'ai posé la question à Sun Lee, le patron de la start-up.
La plateforme a été expérimentée et testée pendant 2 ans. Et donc le projet a été arrêté.
Et je précise que selon l'entreprise et le laboratoire de recherche, le projet a tout de même permis d'acquérir des connaissances scientifiques.
Alors cela dit, ce projet de plateforme pour les enseignants qui n'est donc pas allé à son terme, il est critiqué dans un rapport.
Oui, un rapport du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche, dans lequel on peut lire que les données recueillies par les chercheurs ont essentiellement servi à améliorer les outils de la start-up. Et l'entreprise qui s'appelle Didask utilise ce projet de recherche pour commercialiser sa plateforme de formation en ligne à des entreprises privées, comme on l'entend dans ce spot promotionnel.
Avec Didask et son IA pédagogique, formez vraiment vos équipes. Conçu par nos chercheurs en sciences cognitives, notre IA génère en quelques secondes un parcours e-learning complet à partir de votre contenu brut. Révolutionnez votre manière d'apprendre avec Didask.
Et la petite start-up Didask a bien grandi, hein, puisqu'elle a levé il y a quelques jours 10 millions d'euros auprès de plusieurs fonds d'investissement.
Et Marie, il y a une ONG qui s'intéresse de près à ces liens qui existent entre start-up, fonds d'investissement et géants de la tech.
Oui, c'est l'association CEO, l'Observatoire de l'Europe industrielle basée à Bruxelles. Bram Vranken enquête sur les stratégies de lobbying des industriels auprès des institutions européennes.
La Big Tech est le secteur qui dépense le plus en lobbying. Ces entreprises dépensent plus que l'industrie du pétrole, plus que l'industrie de la chimie. Et Meta est celle qui dépense le plus dans des lobbies, avec plus de 10 millions d'euros par an de dépenses de lobbying en Europe. Ce secteur déploie les formes les plus agressives et les plus manipulatrices de lobbying. Nous avons montré qu'il passe par des fonds d'investissement derrière lesquels on trouve la Big Tech. Et souvent, pour avoir une bonne image, ces fonds représentent de plus petites entreprises, des start-up. Mais les messages que portent ces start-up, ce sont ceux des lobbies de la Big Tech, comme Google ou Meta.
Et justement, restez avec nous dans un instant. On va voir plus précisément comment les GAFAM, Facebook, Meta, Google ou Microsoft, mettent un pied dans les laboratoires de recherche publique français et dans les écoles.
Yeah.
by, but there she goes. Yeah, there she goes.
La soul de Curtis Harding avec un petit air de Motown, le label mythique américain, Curtis Harding qui revient après 4 ans de silence avec ce titre « There She Goes ».
France Inter, Secret d'info, Benoît Colombat.
Et retour à notre enquête sur l'industrie du numérique et ses liens avec la recherche publique, avec cette question de l'impact des écrans sur les plus jeunes. Et ces laboratoires français, Marie Dupin, vous avez découvert qu'ils ne sont pas uniquement liés à des petites start-up françaises, mais aussi à ce qu'on appelle les GAFAM, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Meta, Amazon et Microsoft.
Et pour cela, il a fallu se plonger dans les rapports d'évaluation officiels de ces laboratoires de recherche publique. Vous vous rappelez de ce chercheur Franck Ramu qui avait mené un projet avec une start-up d'apprentissage en ligne financée par de l'argent public. Et bien d'autres projets du laboratoire auquel Franck Ramu est rattaché, le LSCP de l'École Normale Supérieure, ces projets sont eux financés par de très gros industriels, notamment Google et Facebook.
Et l'un des chercheurs de ce laboratoire est également salarié de Facebook, Meta.
Oui, il s'appelle Emmanuel Dupoux et il dirige l'une des 5 équipes de ce laboratoire qui comprend seulement une dizaine de chercheurs. Il est donc fonctionnaire et en même temps salarié à mi-temps de Facebook. Et pour ça, il a demandé et obtenu une autorisation. Son équipe bénéficie par ailleurs de millions d'euros de ressources grâce à des collaborations industrielles avec Facebook et Google. Ce dont bénéficie indirectement le chercheur Franck Ramu au sein du même laboratoire.
Comme c'est une équipe qui fait de l'intelligence artificielle, ils ont des gros serveurs avec beaucoup d'espace de stockage et beaucoup de puissance de calcul. Et ils ont des ingénieurs qui font la maintenance de ces serveurs. J'héberge certaines données sur un des serveurs d'Emmanuel Dupoux. C'est pas qu'Emmanuel Dupoux me fait des cadeaux avec de l'argent de Facebook, c'est juste qu'on a un échange de gré à gré parce que c'est plus pratique que pour moi d'acheter mon propre serveur et d'essayer d'avoir de la maintenance dessus, vous voyez. C'est un tout petit service qu'il me rend. On a convenu qu'on le faisait de manière plutôt informelle il y a quelques années. Quand il a dû renouveler certains disques durs, eh bien c'est moi qui les ai payés.
Et je précise que Franck Ramu explique qu'il ne bénéficie d'aucun financement direct de Meta et que les données stockées sur les serveurs de son collègue sont cryptées et sécurisé.
Et ce laboratoire, il n'est pas le seul à mener des projets avec des géants de la tech.
Oui, et maintenant je vous emmène en Bretagne, où se trouve un autre laboratoire de recherche publique rattaché cette fois à l'université Rennes 2. L'une des chercheuses de ce laboratoire, Séverine Herel, participe à une expertise de l'Agence nationale de sécurité sanitaire sur les dangers des réseaux sociaux. Elle a aussi écrit un livre intitulé « Les enfants et les écrans » dans lequel elle appelle à ne pas diaboliser les écrans. Et lorsqu'il y a quelques semaines, des sociétés savantes médicales alertent dans une tribune sur les dangers des écrans, plusieurs chercheurs, dont Franck Ramu, qu'on évoquait à l'instant, et Séverine Herel, tiennent à leur répondre.
On est plusieurs à s'être inquiétés en fait, du ton de cette tribune qui n'était pas du tout, pour moi, suffisamment scientifiquement fondée, mais plus basée sur de l'opinion et des observations qui, effectivement, ne relevaient pas de la méthode scientifique, donc pas qu'elles sont illégitimes. Mais sur un problème de santé publique, on ne peut pas décider en fait, de recommandations sur la base de ce que certains ont vu, même si ce sont des gens qui travaillent en médecine.
Et pour Séverine Herel, les mesures d'interdiction des écrans ne sont pas la solution.
Il y a effectivement des usages qui peuvent être bénéfiques des écrans. Donc, par exemple, l'utilisation du numérique pour l'éducation, donc avec par exemple des logiciels ou des applications qui vont soutenir les apprentissages d'apprendre à écrire mieux. L'idée, c'est d'améliorer le geste graphique des enfants en leur faisant un feedback en temps réel. Donc, c'est un travail qui se fait au stylet.
Et elle fait référence à quelle application ?
Caligo, c'est un outil numérique censé aider les élèves à apprendre à écrire dès la maternelle et développé dans le laboratoire de Séverine Herrel à Rennes en partenariat avec une entreprise de la tech, Start & Go, une entreprise qui mène ou a mené au total 5 projets de recherche avec le laboratoire de Séverine Herrel, dont un projet de 3 millions d'euros auquel la chercheuse a elle-même participé.
Et cette application développée donc grâce à de l'argent public, est-ce que ça aide vraiment les enfants à apprendre à écrire ?
Alors pour répondre à cette question, des chercheurs du laboratoire de Séverine Herrel ont mené une expérimentation sur des centaines d'élèves de maternelle en France. Un groupe d'enfants passait des tests d'écriture sur tablette, l'autre sur papier. Résultat, Caligo n'aiderait que les élèves moyens, ni les bons, ni les mauvais. Mais aujourd'hui, le patron de Script & Go, Benoît Janin, assure que son application a beaucoup évolué.
Globalement, on avait des premiers moteurs, mais qui n'étaient pas forcément aboutis. D'accord ? Donc, c'était sur une expérimentation, sur, je crois, 22 écoles. Il y avait 1000 enfants, et puis avec une cohorte d'enfants sans tablette, et puis l'autre avec des tablettes. Depuis, les applications ont fortement évolué. La ressource, aujourd'hui, elle vous permet un apprentissage avec un retour immédiat, un feedback, d'accord ? Que vous n'aurez pas forcément avec un enseignant qui a 20, 25, 30 élèves à gérer en même temps.
Mais cette application, est-ce qu'elle est utilisée dans les écoles françaises ?
Eh bien, selon le patron de la start-up, sur 12 millions d'élèves, 20 000 utiliseraient Caligo sur 100 000 dans le monde.
Et cette application a bénéficié de combien d'argent public ?
Au total, depuis 2015, près de 6,5 millions d'euros de subventions selon l'entreprise. Et ça n'a pas profité qu'au laboratoire de recherche et à la start-up.
Comment ça ?
Eh bien, dans les documents techniques de l'appel d'offres datés de 2015, on découvre que le projet n'est pas porté uniquement par la start-up, mais également par Microsoft. Et on découvre également que le but n'est pas seulement de créer une application pour aider les élèves, mais aussi d'améliorer les outils des industriels. Écoutez un extrait de ces documents techniques que nous avons fait lire.
La diffusion de la solution doit générer progressivement un taux d'équipement des écoles en tablettes. Les années d'expérimentation doivent également permettre aux constructeurs de développer ou d'affiner leur gamme de produits dédiés à l'éducation. Elles permettront également de tester de nouveaux produits répondant aux exigences de l'éducation nationale. Tablettes robustes, coques de protection, stylets ergonomiques, accessoires stylés notamment pour les exercices en classe de maternelle, chariots de rangement et de chargement.
Oui, donc là, on comprend bien l'enjeu pour les industriels du numérique. Mais comment ça s'est passé concrètement ?
Eh bien, ça aussi, hein, on le découvre dans les annexes techniques du projet. Pour améliorer tous ces outils, il a fallu collecter de nombreuses données. Et pour ça, 1000 élèves de maternelle ont passé des tests, notamment dans une classe immersive de Microsoft, dans les locaux de Microsoft et en présence d'ingénieurs, comme le confirme Benoît Janin.
Ces salles permettent d'enregistrer et de faire passer des classes d'élèves pour réaliser des exercices. Donc dans ces exercices, on leur proposait de tracer des lettres. En même temps, ça permettait de prendre des empreintes pour aussi améliorer les moteurs d'intelligence. À partir de ces travaux, on a continué à améliorer les moteurs, donc les moteurs d'intelligence artificielle.
Et je précise que ces recherches, elles ont été menées sans l'aval d'un comité d'éthique, ce qu'on appelle un comité de protection des personnes, ce qui interroge l'avocate Karine Ursini-Morin, qui fait partie de ce comité national.
Le code de santé publique prévoit que les recherches qui concernent les mineurs doivent répondre à certains critères. Et la plupart du temps, l'avis d'un comité de protection des personnes est nécessaire. Si cette étude, elle vise à vérifier une méthode d'apprentissage, à mon sens, il faut l'avis d'un comité de protection des personnes.
Alors, dans le cas de la recherche menée sur Caligo, le ministère de l'Éducation précise que l'étude ne faisant pas de tests cognitifs sur du temps long sur les enfants, elle ne nécessitait pas l'intervention d'un comité d'éthique. Mais pour Christophe Caillot du SNES-FSU, les autorités françaises doivent faire plus pour protéger les élèves.
qu'il y a à la fois critique de la technique en disant il faut arrêter les écrans, il y a trop d'écrans, etc. Mais ça, en fait, c'est plus de l'ordre de la surface. La réalité, c'est une volonté de poursuivre la numérisation à marche forcée, à inciter les enseignants, voire à forcer les enseignants à utiliser ces technologies. Il y a des enjeux énormes derrière. Alors, des enjeux financiers déjà, parce que c'est de l'argent public qui est investi dans des solutions privées, donc ça mériterait quand même discussion. Il y a l'enjeu cognitif pour les élèves, en termes de liberté, de surveillance des données. Tous ces signes, ils devraient alerter. C'est une évolution qui est fulgurante. En tant que responsable des générations futures, on n'a pas le droit de ne pas prendre le temps. Il faut faire pause.
Et le ministère de l'Éducation nous précise que l'utilisation abusive d'écran a des effets néfastes et démontrés sur la concentration, la socialisation et l'esprit critique des élèves, et que les outils individuels numériques sont proscrits à l'école maternelle.
Merci Marie Dupin pour cette enquête que vous pouvez retrouver en longueur sur notre site et sur l'appli Radio France. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Raphaël Canezan et réalisée par Christophe Imbert. À la programmation musicale, il y avait Jean-Baptiste Audibert et à la technique Fabrice Desmaz. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve samedi prochain.